Bienvenue et bonsoir à l'émission Taxi Maghreb, l'émission qui vous vient une semaine sur deux sur les ondes de Radio Centre-Ville avec vous à l'animation Lamine et Wahid. Bonsoir Wahid.
Bonsoir Lamine.
Ça va chouïa ?
La baisse, alhamdoulilah.
Bal de l'hal chouïa.
Ah oui, il y a moins 5 degrés, moins 10.
Donc Wahid, on espère qu'on va essayer de réchauffer cette soirée, et pour ce faire on vous propose un sujet chaud, et le sujet nous est inspiré suite à un article sur le journal Alpha, journal de la communauté maghrébine. Il faut noter que le journal Alpha va fêter sa deuxième année le 5 décembre prochain avec la présence d'un grand artiste algérien qui sera là, Chaouli. Et dans le journal Alpha de l'édition du mois de novembre, M. Hassan Djamali a écrit un article assez intéressant, Islamophobie imaginaire, dans lequel il remet en cause l'existence du concept de l'islamophobie, l'existence du concept d'un côté, mais aussi l'existence même de cette islamophobie au Québec et même peut-être à travers le monde. Il a ses arguments, et pour essayer de débattre, on ne va pas essayer de revoir l'article, mais pour essayer de débattre de cette question, nous avons le plaisir de recevoir, on peut dire, un membre de l'élite de la communauté maghrébine algérienne ici établie au Canada, Dr Ahmed Mesaada, qui n'est aujourd'hui dire qui est très connu de plus en plus au sein de la communauté, qui est professeur au niveau secondaire, qui est parmi les profs les plus titrés en termes de prix au Québec, mais aussi c'est un penseur libre puisque ça lui arrive de temps à autre d'écrire des articles sur plusieurs questions, et la question de l'islamophobie est aussi un de ses intérêts puisque il a fait une étude autour de cette question, une étude, on peut dire, exhaustive d'un côté, mais aussi qui dépasse les frontières du Québec, puisqu'il a traité de la question sur plusieurs volets et dans plusieurs pays occidentaux. Donc, nous allons avoir avec nous tout au long de l'émission jusqu'à minuit, Dr Ahmed Mesaada, mais bien sûr, on va vous avoir aussi au bout du fil, au 514-495-2597, et on y va en musique en attendant de commencer notre débat avec notre invité.
Présent Salim. Yeah.
bienvenue à l'émission Taxi Maghreb. Et avec vous à l'animation ce soir, donc Lamine et Wahid. Et comme on l'a déjà annoncé, ce soir on parle d'islamophobie. Et pour nous éclairer sur la question, nous avons le plaisir de recevoir Dr Ahmed Bensahada. Dr Ahmed, marhaba bik ma'ana Taxi Maghreb.
Bonsoir Lamine.
On va commencer par la définition de l'islamophobie. Dans son article, M. Hassan Jamali a défini l'homophobie par une peur irraisonnée. Et à partir de cette définition, il part dans une argumentation pour justifier que l'islamophobie n'existe pas au Québec. Pour commencer, quelle serait la définition la plus correcte de l'islamophobie ?
En fait, comme le souligne très bien Monsieur Jamali, l'islamophobie se compose en fait de deux termes, qui est l'islam et la phobie. La phobie veut dire en fait la peur, la crainte excessive. Mais ça, c'est une définition en ce qui concerne la psychologie. Les mots composés avec phobie en français ne veulent pas dire nécessairement peur d'eux. Par exemple, on a la xénophobie, par exemple, qui est xéno, qui veut dire étranger, phobie, qui veut dire peur. Mais en fait, si on regarde la définition du petit Robert de la xénophobie, c'est beaucoup plus l'hostilité en ce qui est étranger. Enfin, c'est l'hostilité à l'étranger. Il y a aussi, par exemple, des définitions, par exemple, comme homophobie, qui veut pas dire la peur de l'homosexuel, en fait, mais en fait, l'aversion contre ces personnes. Donc, à mon avis, ce qu'il faut comprendre de l'islamophobie, c'est beaucoup plus un rejet, une forme de racisme. En fait, cette terminologie d'islamophobie a soulevé beaucoup, beaucoup de questions. En particulier, il y a un journaliste du Monde qui s'appelle Alain Grèche qui a beaucoup parlé de ce problème et de l'utilisation du mot islamophobie. Et il a écrit deux articles, un en 2004 et un en 2001, qui les a intitulés Islamophobie et le deuxième à propos de l'islamophobie. Et il arrive en fait à la conclusion que l'islamophobie, en fait il dit, c'est ce nouveau masque du vieux fond de racisme anti-arabe et anti-maghrébin conjugué avec l'idée d'une menace internationale que le terme islamophobie recouvre. Donc l'islamophobie n'est pas nécessairement une peur du musulman ou de l'islam, mais beaucoup plus une forme de racisme anti-arabe ou anti-maghrébin.
Si on revient à l'article, donc ce que je comprends, c'est que la composition du mot ne veut pas dire exactement la composition des deux définitions.
Exactement,
c'est que la définition d'homophobie seule a une signification, mais quand on parle d'islamophobie, ce n'est pas seulement une peur, c'est un rejet.
C'est un rejet.
Comme une homophobie, c'est aussi un rejet d'orientation sexuelle
homosexuelle. Par exemple, il y a un terme qui existe dans le dictionnaire qui est la germanophobie, par exemple. Et historiquement, les Français, avec leurs différentes guerres qu'ils ont eues avec les Allemands, ont développé ce qu'on appelle un sentiment de germanophobie qui existe probablement plus maintenant, mais qui a existé. Le terme date du 19e siècle et il est encore dans le dictionnaire. Germanophobe veut dire textuellement qui déteste les Allemands. Alors si on reprend cette terminologie là, ce côté sémantique de la signification de la phobie, on peut dire ça pourrait être aussi qui déteste les musulmans, par exemple.
Donc, parce que même au niveau du titre de l'article, quand on parle d'une inflammation, quand il dit l'auteur M. Hassan Jamali, une inflation verbale se répand au Québec, qui veut dire que les musulmans soient victimes de phobie. Ce n'est pas ça l'islamophobie, parce que là, en isolant le mot phobie seul, on détourne un petit peu le sens de l'islamophobie, parce que c'est pas une peur de l'islam, mais c'est une possible de rejet
des musulmans. Exactement. Donc toute la première partie de son article, à mon avis, elle est mal placée, parce que justement, quelle que soit la terminologie qu'on utilise, ce que l'on vise dans le terme islamophobie, c'est le rejet d'un groupe dont la religion est l'islam. Par exemple, le MRAX, qui est un mouvement anti-racisme belge, pose la problématique du terme islamophobie, et il dit « Ce terme s'est imposé aujourd'hui pour désigner l'hostilité spécifique vis-à-vis de la population de religion et d'origine musulmane. » En fait, le terme est très utilisé actuellement pour un type de rejet et de racisme anti anti-musulmans. Bien que la racine du mot est effectivement, comme l'avait souligné le monsieur Jmali, c'est la phobie qui est la peur. Mais quand on met les deux mots ensemble et on fait un nouveau mot finalement, ça ne veut pas dire nécessairement la somme des deux mots.
Et l'exemple que vous avez cité par rapport aux Allemands vis-à-vis de
exactement.
Donc, les Français. Exactement. Maintenant, une fois, je pense que le concept est beaucoup mieux compris quand on utilise le mot islamophobie. Il y a deux façons de vérifier ce genre de rejet ou de racisme, soit par des conséquences, comme la question du chômage, soit par des chiffres directs à travers des études où on pose une question à des populations particulières. Dans ce cas-là, on parle essentiellement d'islamophobie en Occident aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'islamophobie dans le monde ?
Alors, à ce sujet, en fait, la littérature est très éloquente. Il y a un rapport de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes qui est sorti en 2006. C'est un rapport extrêmement volumineux, il fait plus qu'une centaine de pages, qui est intitulé « Les musulmans au sein de l'Union européenne, discrimination et islamophobie ». Donc le terme est utilisé par cet organisme qui dépend de l'Union européenne et où on fait une description non seulement de la problématique de l'islamophobie, mais aussi de comment la mesurer, comment arriver à trouver les paramètres qui parlent ou qui peuvent nous faire dire si une société est islamophobe ou pas. Okay. Et en fait, ils donnent aussi une définition, eux autres aussi donnent une définition de l'islamophobie telle que les autres organismes que j'ai cités tout à l'heure l'a donné. En fait, c'est un rejet, c'est une aversion, un rejet d'un groupe de personnes qui pratiquent la religion musulmane, en fait.
Wahid, je pense que tu voulais intervenir sur ça.
Oui, moi je voudrais poser une question qui est assez simple. À quoi est reliée l'islamophobie ? Est-ce qu'elle est reliée à une personne ? Est-ce qu'elle est reliée à un groupe ? Est-ce qu'elle est reliée à un historique ? Je voudrais citer un exemple en parlant justement de l'islamophobie en Europe. Nous savons très bien que l'islamophobie a eu des pics très élevés dans des bassins géographiques où il y a eu un vécu historique assez important et assez grave entre les populations musulmanes et les populations qui ne le sont pas. À titre d'exemple, nous avons la guerre du Kosovo, la guerre de la Bosnie, la guerre. Vous avez de l'islamophobie qui est très très élevée en Grèce parce que vous avez un passif très lourd entre la Grèce et la Turquie à Chypre. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que l'islamophobie est une idée véhiculée et entretenue dans une société, mais qu'elle a une relation très 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 puissante avec le passif historique de ces pays-là.
Mais il faut faire attention à ce niveau-là parce que un des principes de base, c'est que quand je veux tuer mon chien, je vais dire qu'il a la rage. C'est qu'il y a toujours il n'y a pas de raison, même si historiquement, il se peut que ça vienne suite à un conflit. L'islamophobie, le danger du racisme.
Je ne l'excuse pas, ce n'est pas une excuse, je dis ce que c'est entretenu seulement.
Ouais. Okay. J'aimerais juste intervenir. L'exemple de la Grèce est très éloquent. Ouais. En 2006, il y a deux professeurs britanniques qui ont fait une très grande étude qui a touché à peu près 35 000 habitants des pays occidentaux et ils ont classé ils ont fait une étude sur la discrimination envers les étrangers et si on regarde le résultat juste pour les musulmans, ben la Grèce est la dernière en fait, c'est le pays où il y a le plus de gens qui se disent négatifs envers les musulmans.
Et un autre élément, parce que moi j'ai rencontré beaucoup, je dirais que historiquement, surtout au niveau donc des Grecs, peut-être qu'ils ont plus de problèmes avec je dirais plutôt avec les catholiques historiquement, à cause que quand une partie de la Grèce a été perdue, Rome n'a pas réagi. J'ai eu beaucoup de discussions avec des membres de la communauté grecque qui ont réfléchi et qui ont analyser cette situation historique. Donc c'est pas tout à fait la guerre, mais par contre un élément important, c'est l'interprétation de la guerre des fois qui peut donner un impact sur, ou l'impact, disons l'interprétation d'un phénomène historique. Et là, je reviendrai un élément concret à la question du 11 septembre aujourd'hui. Mm-hmm. Est-ce que le 11 septembre n'a pas eu un impact aussi sur la propagation de l'islamophobie à travers le monde?
Okay. Alors tous les gens qui observent ce phénomène de l'islamophobie ont remarqué que depuis le 11 septembre 2001, le sentiment de l'islamophobie a augmenté, ça c'est certain. Il y a même une étude qui est sortie, en fait, qui date du 17 septembre dernier, 2008, donc c'est du mois dernier, et qui montre que le sentiment d'islamophobie a augmenté en Europe par rapport à ce qu'il était même dans les années 2001. Donc c'est un phénomène qui n'est pas en diminution, qui est en forte augmentation. Pour reprendre un petit peu ce qu'avait dit tout à l'heure notre ami, en fait, comment se définit l'islamophobie? En 1997, donc le document de l'Union européenne signale un document publié par une ONG britannique, Runimade, qui a publié un article, enfin une étude complète sur l'islamophobie, qu'elle a appelée Islamophobia, a challenge for us all, et elle définit en fait, la notion d'islamophobie est circonscrite par référence à 8 critères. Le premier, c'est l'islam est considéré comme un bloc monolithique, statique et réagissant peu au changement. 2, l'islam est considéré comme distinct et autre. 3, l'islam est considéré comme inférieur à l'Occident. 4, l'islam est considéré comme violent, agressif, menaçant. 5, l'islam est considéré comme une idéologie politique utilisée pour acquérir des avantages. 6, les critiques de l'Occident formulées par l'islam sont rejetées d'emblée. 7, l'hostilité à l'égard de l'islam est utilisé pour justifier des pratiques discriminatoires. 8, l'hostilité à l'égard des musulmans est considérée comme naturelle et normale. Ces critères-là ont été avancés par une ONG britannique.
Mais en se basant sur juste un des critères, oui. La relation qu'on essaie de développer entre l'islam et la violence, qui est très présente dans les médias, même au Québec, au Canada, en Occident en général, il y a beaucoup de dérapages de la part de plusieurs animateurs journalistes sur un amalgame entre l'islam et la violence, aussi de présenter l'islam comme étant un bloc monolithique.
Exactement.
Où tout le monde se ressemble et tout le monde est fondamentaliste, prouve qu'en fin de compte au Québec et un peu partout dans le monde aujourd'hui, il y a une islamophobie.
Monsieur Ben Saada, on a remarqué qu'il y a une forte relation entre islamophobie et les médias. Prenons l'exemple des télévisions ou des radios, des médias lourds européens, où la présence des musulmans est assez forte. Quand vous remarquez que ces médias ou les correspondants de ces médias vont dans les pays musulmans, quand ils vont à la Casbah d'Alger ou de Tunis ou de Marrakech, ils vont pas aller filmer les quartiers ou interviewer les gens qui représentent un islam progressiste et un islam avant-gardiste, mais ils vont plutôt aller questionner et filmer des lieux ou des endroits qui pourraient porter préjudice justement à ce
exactement,
monde
oui.
musulman.
Vous pensez, oui, vous pensez c'est, ça c'est vrai, mais au-delà de ça, même les nouvelles, quand elles sont présentées, quand elles sont négatives, elles sont stigmatisées par rapport aux musulmans. J'écoutais la télévision la semaine dernière au sujet d'une fille qui a été battue ou même, je sais pas, a été frappée, battue par ses parents en France, et parce qu'elle apparemment elle voulait pas se marier avec un de ses co-religionnaires, et on a bien dit qu'elle était musulmane, donc elle a fait c'est pas un fait divers,
elle n'est plus citoyenne,
c'est une musulmane. Donc à chaque fois qu'on peut montrer le terme de musulman, on le stigmatise, et je suis pas mal certain que si elle était pas musulmane, ça aurait fait peut-être les journaux, mais fait divers, mais elle passerait pas au journal de 20h par exemple, qui est un journal vraiment où les nouvelles sont vraiment choisis.
Si on revient au terme islamophobie, dans l'article de M. Hassan Jamali, il cite que ce terme a été utilisé pour la première fois par M. Tariq Ramadan.
Alors ça, j'ai fait des recherches là-dessus. C'est vrai que M. Tariq Ramadan l'a utilisé en 1998, mais M. Gresh, que je cite tout à l'heure, qui est un journaliste du Monde, dit que le terme a été déjà utilisé en 1925. Et déjà, en fait, l'ONG dont je viens de parler maintenant a publié un article qui s'appelle Islamophobia a challenge, et c'était en 97. Donc Tariq Ramadan n'a fait que le reprendre, en fait. Le terme a été déjà utilisé
par des Occidentaux.
Exactement.
Même.
Et dans l'article, ce qui est biaisé, c'est que l'article donne la paternité du mot islamophobie à Tariq Ramadan et qui le relie en fait à son grand-père Hassan al-Banna, etc. Donc on voit un peu qu'il y a un parti pris, disons, de faire la relation entre les deux.
Monsieur Bessahada, islamophobie comme homophobie, comme toute exclusion sont condamnables et tant mieux. La question que je vous pose, est-ce qu'il n'y a pas une façon ou des façon pour essayer de contrer cela d'une manière assez intelligente.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est dans le rapport de l'Union européenne, en fait, l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, c'est qu'il propose des façons selon les pays pour remédier à ce genre de problème. Donc, premièrement, apporter le dialogue entre les religions, à favoriser par exemple les CV qui portent pas de non, anonyme, à faire une discrimination positive dans l'emploi, parce qu'on si on regarde le rapport qui est extrêmement long, qui est très intéressant et qui est d'ailleurs public, on peut le télécharger sur le site de l'Union européenne. Même au niveau de l'éducation, c'est-à-dire qu'on a remarqué que la communauté musulmane, même au niveau dans certains pays, hein, pas tous, mais dans certains pays, la communauté musulmane, par exemple la France, par exemple, okay, où la proportion de gens qui ont des diplômes est très faible par rapport à la moyenne nationale. Exactement comme par exemple dans l'employabilité, par exemple.
Non, vous ne trouvez pas, par exemple, le fait qu'il y ait une islamophobie plus ou moins présente en France, comme en Allemagne d'ailleurs, soit relié au fait que la plus forte concentration de musulmans soit d'origine maghrébine, et on connaît très bien le passif qui existe entre l'Algérie et la France,
exactement,
et le Maroc et la France. Vous ne trouvez pas qu'il y a une corrélation?
Il y a une corrélation, et de toute façon elle est donnée. Il y a une étude qui a été faite par une université française où on a envoyé des CV, on a envoyé des CV avec des noms fictifs, où on a mis des noms à consonance maghrébine, et on a remarqué que les Maghrébins avaient trois fois moins de chances d'obtenir des emplois que les autres nationalités. Et la même étude a été faite en Angleterre, par exemple, et on est tombé dans les mêmes résultats. C'est-à-dire que si tu as un nom qui a une connotation musulmane ou maghrébine, tu as moins de chances d'avoir des emplois.
Je pense qu'on va prendre une petite pause publicitaire et on va revenir après la pause. Je vous rappelle, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb et on parle aujourd'hui d'islamophobie. On veut démystifier le terme, le concept, mais aussi voir est-ce que réellement ça existe. Est-ce que c'est une création de quelques personnes qui jouent le jeu de la victimisation au sein de la communauté musulmane, ou est-ce que réellement aujourd'hui des études sérieuses à travers le monde ont démontré clairement que il y a de plus en plus d'islamophobie. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons plaisir donc de débattre à Taxi Maghreb ce soir avec M. Ahmed Ben Saada, je rappelle, intellectuel de la communauté algérienne maghrébine ici au Québec, professeur au niveau secondaire, ayant obtenu plusieurs diplômes pour la qualité de l'enseignement et aussi pour l'originalité des méthodes qu'il a développées au sein du secteur de l'éducation du Québec. Je rappelle aussi que M. Ahmed Ben Saada a eu l'occasion aussi d'écrire plusieurs articles, et c'est à ce titre qu'on l'invite ce soir, puisque la question de l'islamophobie l'a intéressé, il a fait des études sur la question. Donc on va aller prendre une petite pause publicitaire et on va revenir avec notre invité et notre sujet.
Voyage Jet Set, les spécialistes du Maghreb. Réservez maintenant et ne payez que 2 semaines avant votre départ. Aucun frais caché, 0% d'intérêt. Dépôt minimum requis, certaines restrictions s'appliquent. Voyage Jet Set, les spécialistes du Maghreb. 514-847-1287, 847-1287.
À l'occasion de son 12e anniversaire et de l'Aïd al-Adha, le journal Alpha présente Nasreddin Shaouli et la troupe folklorique Aziza le vendredi 5 décembre à 20h30 au centre Le Carlton, 8860 Langelier, Saint-Léonard. Organisé avec le concours de Skyland Voyage, la pâtisserie La Marquise et Cananut. Le concert de Nasreddin Shaouli, une soirée à ne pas manquer. Pour de plus amples informations, contactez le journal Alpha au 514-531-1382. 514-531-1382.
Pour le remix, Abla Chichi. Ah, Imhotep. Mami. Kamel. On y va.
Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça. Oh, que dame. Mais tout est bien. Oh, que dame. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça. Oh, que dame. Elle a tout est bien. Oh, que dame. Allez, on gère cartonique. Au goût tout étranger. Oh, on te passe des blédiques. On est là, on est là. Allez, on gère cartonique. Au goût tout étranger. Oh, on est là. On te passe des blédiques. On est là, on est là. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça. Oh, que dame. Elle a tout hébé. Oh, que dame. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça, que dame, que tout est bien. Que dame.
Parisien du Nord, clan de d'abord. Actif dans la musique sans passeport, c'est le talent d'abord. C'est comme le padre qui a taffé ramé pendant des années. Les exploitants que je me ferai un véritable plaisir de canner. Je suis pas violent, mais tant d'années à 5000 francs par mois, c'est fané. Et pour les jeunes, c'est la tannée. N'en fallait pas faire l'erreur d'assimiler. Face à ces professions, ce ne sont que des bassesses de vocation. La leçon à en tirer, c'est quoi que tu dises, quoi que tu fasses. T'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face. Je veux voir les jeunes PDG dans leur bureau, gérant leurs entreprises comme on gère les kilos. C'est pas dur, je veux voir des sous-bouffeurs au mur. Je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire. Quitte à pour leurs compétences et non pour leur derrière. Je veux enfin que les jeunes pèsent, à vrai dire.
Allez, où j'ai cartonique, goût tout étranger. Oh, on t'a cité blédique. Oh, elle est là, elle m'a tout yo. Allez, où j'ai cartonique, au goût tout étranger. Oh, on t'a cité blédique. Oh, elle est là, elle m'a tout yo.
Bienvenue à l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, donc, on parle d'islamophobie. On essaye de démystifier le concept et de voir ce qui réellement ça existe en Occident en général. C'est sûr que la dernière demi-heure de l'émission, on va revenir au Québec, à Montréal en particulier, pour essayer de comprendre est-ce que il y a de l'islamophobie ici au Québec et à Montréal. Mais avant d'aller donc, et je vous rappelle aussi que pour débat de sujet, l'Amin et Wahid, nous avons invité Monsieur Ahmed Saada, qui est docteur enseignant, mais aussi un penseur libre, puisqu'il a eu l'occasion de publier plusieurs articles qui traitent des questions de fond, comme la question d'islamophobie, sur des questions qui ont relation avec le conflit civilisationnel, que beaucoup de gens essaient de faire la promotion entre l'Occident et le Moyen-Orient. Aussi d'autres questions qui concernent une autocritique de la culture, de la psychologie, on peut dire, arabo-musulmane d'aujourd'hui. Mais ce soir, il va nous parler d'islamophobie. Docteur Hanim Saada, une des questions ou un des arguments des gens qui rejettent l'existence de ce phénomène en Occident, ils vont dire que il y a des personnes qui arrivent à réussir et que même qui sont d'origine arabo-musulmane et qui ont un impact sur la société. Je prends le cas au Québec, l'humoriste Rachid Badouri qui fait tabac. On connaît d'autres arabo-musulmans qui, dans le domaine artistique, arrivent à vendre leurs CD. Il n'y a pas eu de chute de vente de CD de plusieurs artistes issus de la communauté arabo-musulmane en Occident. Mami, on vient de l'écouter, bon, il y a eu des problèmes, mais avant ça, il était quand même très aimé en France. Khaled aussi. Donc, pourquoi y aurait-il l'islamophobie si réellement toutes ces personnes-là arrivent à réussir et à être aimées par un public occidental?
Alors, l'argument en fait qu'avait soulevé et amené Monsieur Jmaili, c'était Rachid Badouri puis Linda Tali. En fait, il n'y a pas de relation entre aimer un artiste, qu'il soit d'une communauté ou d'une autre, et l'islamophobie. Pour la simple raison que, premièrement, toute la population n'est pas islamophobe, ok. Il y a des gens qui n'ont aucun argument contre les musulmans.
En général, quand on aime la musique, on n'est pas raciste.
Exactement. Et deuxièmement aussi, c'est l'histoire nous montre que dans des cas de racisme extrême, on n'a pas dénigré certains gens du show business. Par exemple, si on regarde l'histoire des États-Unis. Il y a eu une grosse histoire de racisme envers les Noirs, mais tout le monde aime Louis Armstrong, par exemple. Ok, il est noir et il a chanté. Il était célèbre.
Mais je l'aime pas. PDG de Coca-Cola.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que des chanteurs noirs, même des sportifs noirs, ont été aimés pendant le temps où la communauté entière noire américaine était mise à l'écart.
L'exemple de Zidane aussi.
L'exemple de Zidane, par exemple, en France.
S'il est aimé, ça veut dire qu'il n'y a plus de racisme en France.
Et l'exemple d'humoriste, il y a beaucoup d'humoristes d'origine maghrébine en France qui font des cartons, alors que la société française a un fond islamophobe.
Au moins, on est sûr que c'est maghrébophobe.
Oui, au moins. En fait, c'est très difficile de faire la part des choses, hein, maghrébophone, maghrébophobe et islamophobe.
Mais je vous pose une question, monsieur Ben Saada. Vous avez parlé de Rachid Badouri, d'Italy, ou monsieur Lamine a parlé de Zidane. La question que je pose est toute simple. En fin de compte, si on n'est pas islamophobe, on va te donner un emploi. Où on va te permettre d'être acteur du showbiz ou un grand sportif, et ça s'arrête là. Donc, en fin de compte, si on t'ouvre les portes, ça va être confiné à certains emplois et pas d'autres. Et pourquoi ne pas être ministre, ne pas être PDG, ne pas avoir les mêmes droits que tout à chacun?
Ça, c'est vrai. En fait, il ne faut pas regarder si Rachid Badouri a un public. Ce qu'il faut regarder, c'est les chiffres qui concernent la communauté. Par exemple, je vous cite des chiffres donnés par la communauté européenne. En Allemagne, en 2004, le taux de chômage des étrangers, 20%, était deux fois supérieur à la moyenne de 10%. En Belgique, la moyenne du taux de chômage des Marocains et des Turcs, 38%. Celui des Belges, 7%. Aux Pays-Bas, 16% des personnes d'origine immigrée étaient au chômage en 2005, contre 6,5% pour l'ensemble de la population active. Au Royaume-Uni, où l'on dispose d'informations détaillées, on recense 13% pour les hommes musulmans, et le taux de chômage le plus élevé parmi les femmes, 18%. Les musulmans âgés de 16 à 24 ans avaient le taux de chômage les plus élevés. Par rapport à la... Donc, ce ne sont pas des phénomènes comme ponctuels. Si on regarde, et puis je pourrais citer parce qu'il y a des pages et des pages. Hein,
Canada.
Je me suis limité ici.
Canada.
Ouais. Alors, pour ce qui est du Canada, on sait tous les articles qui ont été publiés. Puis là, j'ai un article devant moi d'Olivier Bourg qui dit « Chômage des Maghrébins, une honte pour le Québec ». Le chômage était de 7% dans la population au Québec, alors que pour les immigrants maghrébins, c'était de autour de 28%. Donc, ce n'est pas un phénomène, je veux dire, ponctuel. On peut pas parler de conjoncture, etc. C'est un phénomène qui est dans tous les pays occidentaux.
Surtout, je pense que il faut garder en tête les critères que vous avez mentionnés, qui sont des critères qui dépassent des fois ce qu'on peut voir d'une façon très claire comme un discours haineux, mais des fois juste généraliser ou présenter la communauté musulmane comme étant un bloc monolithique, et aussi donner une image très très minoritaire qui n'est pas représentative de la communauté à travers des reportages ou à travers une présentation très partiel des événements. Il y a un auditeur, je pense, qui en attend. On va prendre l'appel et bien sûr, on va revenir avec notre invité, et Wahid. Donc, Aloui, bonsoir, Boukassem.
Oui, Bonsoir l'ami.
Bonsoir Belkacem, tafadl.
Bonsoir pour Wahid et votre
Monsieur Ahmed Ben Saada.
Monsieur Saada.
Bonsoir Belkacem.
Et bonsoir pour toutes les auditrices et auditeurs. Moi je voudrais dire que si on est victime par la société de l'islamophobie, autant que membre de cette société-là, qu'est-ce qu'on a à faire? Parce que c'est grave, nous, si on ne fait rien, on se croise les bras ou on baisse les bras, c'est les futures générations qui viennent après nous qui seront victimes. Victimes des actes que eux ils ont rien à voir là-dedans. Je voudrais dire par cela, parce que vous avez cité les talents, chacun membre de la société a un talent. Normalement, chacun de nous doit lutter contre ça ou faire changer l'image du musulman. Ou c'est après le 11 septembre, c'est regrettable, mais c'est pas tous les musulmans. Même les musulmans, on est contre ça, contre ces actes barbares, contre le terrorisme. Et vous savez, nous les Algériens, le terrorisme a commencé en Algérie, par exemple, où vraiment personne n'aime ce fléau-là. Donc, le terrorisme, il existe pas que dans parmi les musulmans. Il y a le terrorisme basque, il y a dans des religions, il y a des fanatiques, il y a ceci, il y a cela. Mais pourquoi les musulmans ce temps-ci là? Si vous avez parlé du chômage au Québec, c'est 7%, dans la communauté maghrébine c'est 30%, c'est une honte pour les responsables politiques. Qu'ils n'ont pas le courage de voir pourquoi il y a le chômage dans cette communauté-là. Est-ce que c'est l'islamophobie, comme vous le dites? Est-ce que c'est du racisme? Il faut appeler un chat, par exemple. Il faut appeler un chat. Et je dis pour notre professeur, oui, ça existe, mais comment lutter contre ça? Comment faire changer notre image? Quels sont les paramètres? Quels sont les facteurs? Donc, ma question, elle est là. Je la pose comme ça. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui peuvent répondre. Lamine, allô?
Oui, Belkacem, tafadl.
Oui, je ne sais pas, tu sais, après, je vais sortir un peu du sujet, là, mais pas pour longtemps. Tu sais, après l'Algérie, qu'ils ont fait des révisions sur la Constitution, il y a la Douma aussi qui a fait ça après l'Algérie. Ils ont changé le mandat du président de 4 ans à 6 ans pour que Poutine revienne pour terminer ses 12 ans, puisqu'il a un programme jusqu'à l'an 2020. Donc l'Algérie, elle a commencé parce que le président a besoin de terminer son mandat. Mais tu sais, même Bush, il demande la révision parce que lui, il veut terminer la guerre, les guerres qu'il a fait, je sais pas avec Obama si ça va passer, il est en train de négocier, je sais pas si tu es au courant.
Sauf que
ça devient un fléau, hein.
Non, mais sauf que je pense que Bush ne pourra pas faire ça parce que le Sénat américain, tu sais, changer la Constitution américaine. À titre d'exemple, le fait que ça prend presque 2 mois entre les élections et l'installation du nouveau président, c'est un héritage historique qui est basé sur le fait que la personne devait peut-être dans le passé venir de la Californie vers Washington, donc ça prenait beaucoup de temps. Juste ça, ils n'ont pas pu le changer. Je pense que des pays comme les États-Unis, c'est très difficile pour un président de changer la Constitution. Je pense pas que ce sera possible. Il pourra toujours tenter, mais je pense pas que ce soit aussi facile que ça a été le cas en Algérie ou un peu ailleurs aussi. On a eu en Syrie où on a changé l'âge du président parce que le fils du président n'avait pas encore 40 ans. C'est pas la première fois, c'est presque une tradition. Dans certains pays.
Pour Bush, donc il pourra pas. Donc si à cause des États-Unis, on ne peut pas changer la Constitution, partout dans le monde, c'est permis.
Non, il doit changer de pays pour le faire.
Donc il faut aller en Algérie, par exemple.
Par exemple.
C'est ça.
On n'en veut pas, on n'en veut pas de George Bush en Algérie.
Merci pour cette émission, pour ce thème-là.
C'est
impressionnant. Merci.
Oui. Avant juste de donner la parole à notre invité pour répondre à la question de Belkacem, tout à l'heure, Belkacem, quand il a dit que le terrorisme a commencé de l'Algérie, j'allais un petit peu réagir, mais j'ai pris un peu de temps de réflexion en l'écoutant, et il a raison. Au moins, le terrorisme aéronautique a commencé en Algérie, parce que le premier avion qui a été détourné, l'avion civil qui a été détourné à travers le monde, c'est la République française qui l'a détourné parce qu'il y avait un avion qui transportait des responsables 56 qui transportait des responsables du Front de Libération Nationale, et l'armée française l'a détourné, et c'est un acte terroriste si on applique les règles de la définition d'un acte, parce que c'était un avion civil. On ferme la parenthèse, mais donc il avait raison de dire que ça a commencé en Algérie, au moins par rapport au terrorisme international au niveau de l'aéronautique. Belkacem se pose la question, qu'est-ce qu'il faudra faire? Moi, je laisserai cette question à la fin, donc on l'a noté. Je pense, docteur Boussaïda, vous avez donné des chiffres par rapport aux pays, donc certains pays occidentaux, mais Wahid, peut-être tu voulais relancer.
Moi je voudrais, Monsieur Ben Zahada, faire toujours un parallèle. On explique par plusieurs détournements et tourniquets, etc., l'islamophobie en Belgique, en Hollande, en Grèce, etc. Il y a un passif historique, ils ont des relations en parlant de l'église catholique, de l'église de l'inquisition, et patati et patata, des croisades et tout le baratin. Au Canada, au Québec, je ne vois pas où est la véritable raison intrinsèque ou cachée pour expliquer la présence d'une islamophobie qu'on ne peut pas renier, je parle du moins d'une grande proportion.
Okay. Je vais revenir à une étude qui a été faite, dont j'ai parlé tout à l'heure, au niveau des pays occidentaux. Et il s'est avéré, j'avais dit que la Grèce était vraiment le dernier de la classe, mais parmi les premiers de la classe, c'était le Canada. Donc au Canada, si on regarde le taux de méfiance à l'égard des musulmans, il est très faible. Okay, comparé aux autres pays. Mais si on regarde le détail de l'étude, et on regarde quel est le groupe communautaire ou le groupe religieux ou ethnique qui est le plus discriminé, ben on trouvera que c'est les musulmans. En fait, si l'étude, en fait, il a fallu que je regarde les chiffres de plus près, c'est que si on regarde les chiffres juste pour le Canada tout seul, les musulmans subissent le racisme deux fois plus que toutes les autres races.
Mais Monsieur Ben Saada, oui. Quelle en est la cause extrinsèque, ou du moins les causes extrinsèques et intrinsèques? Est-ce que c'est les médias? Est-ce qu'ils l'ont trouvé part? Est-ce qu'ils ont été influencés?
Exactement. À mon avis, il y a les phénomènes migratoires récents, actuels, etc. Les médias, la mondialisation, etc. font tous les problèmes, la stigmatisation du problème palestinien, les problèmes des attaques terroristes contre le World Trade Center, etc. Tout ça fait que il y a une forme de méfiance à l'égard des musulmans. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une méfiance qui est amplifiée par les médias, qui est amplifiée par tout ce qui se passe autour du mot islam.
Mais pourquoi on les accepte par exemple dans les universités? Il y a beaucoup d'étudiants d'origine musulmane, maghrébine en particulier, dans les universités canadiennes et québécoises. Ils ne les acceptent pas dans des emplois.
Pour être accepté à l'université, c'est juste une question de notes. Donc au niveau éducatif, il faut avoir des notes, il faut avoir une cote R, et en fonction des notes que tu obtiens, tu peux être accepté ou pas être accepté. Donc il n'y a pas d'entrevue, il n'y a pas de sélection par rapport à ta personnalité, etc. À part dans certains programmes, par exemple comme en médecine à McGill, où on te fait une interview. Mais non. La plupart des programmes n'ont pas d'interview.
Non, mais en plus de tout ça, il faut mentionner qu'il y a actuellement au Canada, surtout au niveau du deuxième et troisième cycle, il y a quand même une crise, il y a une recherche d'étudiants. Parce que des étudiants issus de la majorité ici, ayant leur premier diplôme de premier cycle, endettés déjà, ils vont aller se positionner au niveau du marché du travail. Vous savez que j'ai eu une discussion avec un des responsables de l'école polytechnique de Montréal, au niveau du génie par exemple. Si les étudiants maghrébins se retirent du deuxième et du troisième cycle...
Ça va être la récession.
Non, je parle sérieusement. Soit l'ETS qui ferme, deuxième cycle, troisième cycle, soit Polytechnique ferme. Et ça, c'est des chiffres qui sont vérifiables aujourd'hui. C'est que on est en train de remplir les universités au niveau du deuxième et troisième cycle, non pas pour, au bout de tout ça, trouver un emploi, mais tout simplement pour se retrouver au chômage après avoir obtenu un doctorat.
La mine, c'est un bon point, puisque tu viens de dire qu'on investit beaucoup dans les domaines, dans les grandes écoles d'ingénierie et de technologie. Pourquoi on n'investit pas dans les écoles du journalisme, les écoles des médias, puisqu'on vient de dire que vraiment les médias, c'est le poids lourd de l'opinion publique canadienne occidentale.
Ça, c'est une bonne question. Je vais juste prendre un appel rapidement pour que l'auditeur ne nous quitte pas. Je vous rappelle le numéro de téléphone qui est le 514-495-2587. Ce soir, on parle d'islamophobie. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Ahmed Ben Saada pour nous démystifier ce concept. Allô, oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Je connais Maïa Khouya.
Je préfère écouter le docteur parler que de parler moi-même.
Ok, تفضل.
Donc, salam alaikum.
Comme ça, là.
Disons au niveau des médias, c'est eux qui ont vraiment empiré les choses.
Frère Mouloud, soit à la radio parce qu'il y a un bruit de fond, je ne sais pas où l'être.
Ah, d'accord.
Il faut un peu parler juste plus fort et ça va être mieux.
D'accord.
تفضل, frère. Allô. Je pense qu'on a perdu Mouloud. Allô, je pense qu'on l'a perdu. Donc, je lui demanderai de nous rappeler 514-495-2597. Et je reviendrai à donc Dr Ahmed Ben Saada. Donc, si on se base sur les informations qu'on a aujourd'hui, vous avez parlé de la question du chômage, mais d'après vous, si on revient au Québec et à Montréal, on remarque clairement que le taux de chômage des Maghrébins en particulier est beaucoup plus élevé ici qu'ailleurs, mais en même temps, on sait très bien que les Maghrébins viennent plus ici qu'ailleurs, et quand je parle d'ailleurs, je fais référence au reste du Canada. Mais est-ce que vous pensez pas que la question de l'islamophobie ces dernières années est un phénomène beaucoup plus francophone? Alors, et j'ose poser cette question parce que quand on parle du Canada, beaucoup de gens considèrent qu'il y a plus de difficultés pour la communauté arabo-musulmane à trouver de l'emploi, à titre d'exemple, ou à s'intégrer au Québec par rapport au reste du Canada. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité?
Alors, moi, j'ai recensé des informations provenant de sondages. Si je regarde, par exemple, tout à l'heure, j'avais parlé d'une étude exhaustive qui a été faite en Grande-Bretagne. Il y a un sondage Ipsos Reid du 21 mars 2005. Si on regarde, par exemple, les groupes ethniques qui sont ciblés par le racisme selon les Canadiens, les musulmans viennent en tête. Okay? Donc, après, il y a les Amérindiens, les Noirs, les Indiens, etc. Mais en haut, complètement en haut, vers les 40%, ce sont les musulmans et les arabes. Si je regarde, par exemple, l'intolérance raciale au Canada, Ipsos Reid, sondage 21 mars 2005, alors on remarque que ça commence, donc le pourcentage de Canadiens qui n'aimeraient pas avoir un voisin d'une autre race, on remarque qu'au Canada Atlantique, par exemple, le taux est de 4%, en Ontario aussi, et que le taux va jusqu'à 15% au Québec. Alors ça, c'est des chiffres de sondage. Qui a été fait. Le sondage Léger Marketing du 10 janvier 2007, qui a vraiment fait beaucoup parler de lui, montre que si on regarde par exemple les différentes races et groupes ethniques, etc., les Arabes arrivent vraiment en tête, et un Québécois sur deux se dit avoir des opinions mauvaises contre les Arabes. C'est énorme par rapport, disons, aux Juifs, c'est autour de 35%, les Noirs, c'est autour de 25%, etc. Donc, dans tous les sondages, les Arabes ou les musulmans, parce qu'en général, on ne fait pas la différence entre les deux, arrivent vraiment en tête de cette discrimination.
Sur la question de l'islamophobie comme concept ou comme réalité, tout le monde a remarqué une résistance à utiliser ce terme de la part des autorités, bien qu'au Québec, le ministère de l'immigration l'a déjà utilisé en faisant l'analyse du taux de chômage des Maghrébins. D'après vous, pourquoi les autorités de ces pays-là en général, puisqu'il y a quand même des études assez claires, assez sérieuses qui parlent de ce phénomène, pourquoi il y a une résistance, premièrement, d'admettre ce concept, de légiférer par rapport à ce concept, et là je fais un parallèle par rapport à l'antisémitisme, qui est aussi une réalité. Il y a quand même un antisémitisme bien établi en Occident, historique, qui est présent de niveau à des niveaux différents, mais quand même les pays occidentaux dans leur majorité à des niveaux différents, ils ont légiféré pour la question de l'antisémitisme. Si je prends par exemple la France, d'après vous, pourquoi il y a une résistance en Occident, même au niveau d'un niveau d'autorité très sérieux, à admettre le terme et à légiférer quand il y a des études assez sérieuses qui le confirment?
Le problème de l'antisémitisme, en fait, j'aimerais revenir au terme antisémitisme, pour revenir aussi à la définition de l'islamophobie, c'est que antisémitisme, ça veut dire contre les sémites. Et contre les sémites ne veut pas dire nécessairement peur ou intolérance, etc. Donc, revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, là, au sujet de... Et sémites... les Arabes aussi sont sémites, mais on comprend bien en disant le terme antisémite qu'on parle des Juifs. Ouais. Ok. Et il y a le terme aussi judéophobie qui est aussi utilisé, mais le terme antisémite est beaucoup plus utilisé que. C'est juste pour revenir à la construction des mots en français. Ok. En fait. Les lois qui ont été promulguées contre l'antisémitisme sont venues bien après le, en fait, la Shoah, tout le génocide contre le. En fait, à mon avis, il y a une conscience, une espèce de repentir généralisé au niveau des pays occidentaux et en particulier les pays européens qui ont se sentis coupables par rapport à ce génocide-là, qui ont promulgué ces lois. Au niveau de l'islamophobie, c'est un phénomène quand même qui est assez nouveau. Donc on avait dit qu'il est apparu assez récemment, bien que le mot islamophobie a été cité il y a assez longtemps. Mais disons qu'on en parle depuis le milieu des années 90. Donc c'est un phénomène assez nouveau. Il faut à mon avis attendre et essayer de pousser à voir si on peut pas faire quelque chose par rapport à ça. Mais le temps n'est pas encore venu à mon avis.
Merci Dr Ahmed Mesaada. Je vais prendre une petite pause publicitaire et je reviens avec notre invité Ewahid.
Voyage Jet Set, les spécialistes du Maghreb. Réservez maintenant et ne payez que 2 semaines avant votre départ. Aucun frais caché, 0% d'intérêt. Dépôt minimum requis, certaines restrictions s'appliquent. Voyage Jet Set, les spécialistes du Maghreb. 514-847-1287, 847-1287.
À l'occasion de son 12e anniversaire et de l'Aïd al-Adha, le journal Alpha présente Nasreddin Shaouli et la troupe folklorique Aziza le vendredi 5 décembre à 20h30 au centre Le Carlton, 8860 Langelier, Saint-Léonard. Organisé avec le concours de Skyland Voyage, la pâtisserie La Marquise et Cananut. Le concert de Nasreddin Shaouli, une soirée à ne pas manquer. Pour de plus amples informations, contactez le journal Alpha au 514-531-1382. 514-531-1382.
وين عذاب قيس على ليلى ما عذبني ما عندي مثيل وين عذاب قيس على ليلى ما عذبني ما عندي مثيل وين عذاب قيس على ليلى وين عذاب قيس على ليلى راني مفرق في تهويل نتفكر دوك ليام رجميلة براسي سهران طول الليل نحوس المحنتي وسيل مال قلبي بلهم تقيل مال الليالي عليا طويل معذبني ما عندي مثيل وين عذاب قيس على ليلة معذبني ما عندي مثيل وين عذاب قيس على ليلة معذبني ما عندي مثيل وين عذاب قيس على ليلة وين عذاب قيس على ليلة يديه كتاب يشكي له ويحن في الغول حتى نتحس بالعذاب قولها صدري مازال محلول وجسمي كيفش العذاب مازال تايه عليك يجول منسك يا الهرب دون سباب كل اللي نحكي قليل كلامي صح ما هوش حيل مازال الدمع عليك تسيل مازال احساسي عليك نبيل مال قلبي بالهم تقيل مال الليالي عليا طويل معد بني ما عندي متيل وين عدا بقيس على ليلة معد بني ما عندي متيل وين عدا بقيس على ليلة معد بني ما عندي متيل وين عدا بقيس على ليلة وين عدا بقيس على ليلة نزيد نشوف وجهك يحسن للشهدات نشوق ليك خطري ملهوف نزيد راكم فرق الحياة خايف نموت ما نزيد نشوف وجهك يحسن للشهدات مشوق لي خطر ملهوف يزيد يراكم فرق الحياة فجي قلبي بزينك مخطوف بشريط فيني ما ردات كي زمن هواك هذا معروف سالي نجوم اللي معهم من بات سالي شمع اللي على الغنديل كلمت عليك شحال من ليلة حبيت ننساك ومستحيل راكي ربطتيني بالحبيلة مال قلبي بالهم تقيل مال الليالي عليا طويلة معد بني ما عندي متيل وين عدا بقيس على ليلة معد بني ما عندي متيل وين عدا بقيس على ليلة معد بني ما عندي متيل.
Bienvenue à l'émission Taxi Maghreb avec vous ce soir, comme d'habitude, Lamine et Wahid. Et nous recevons Dr Ahmed Mesaada pour parler de l'islamophobie. Jusqu'à présent, je pense qu'on a eu une définition. On a eu des exemples à travers des études qui ont été faites à travers le monde. Et dans cette dernière, je dirais, demi-heure, nous allons essayer de revenir à Montréal, au Québec, pour parler du concept d'islamophobie. Dr Ahmed Mesaada, si on fait un parallèle par rapport à l'antisémitisme, vous avez fait référence quand même à un sentiment de culpabilité de l'Occident vis-à-vis des Juifs, et on sait très bien que les Juifs ont souffert à travers leur histoire en Occident de cet antisémitisme. Mais quand même, il y a un élément très important, c'est qu'au sein de la communauté juive, à titre d'exemple, ici à Montréal ou au Canada en général, le Congrès juif canadien établit des procédures de recensement des cas concrets qui peuvent arriver dans la rue, qui peuvent arriver dans une école, dans une administration, où il y a un comportement haineux envers la communauté juive. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que la communauté arabo-musulmane n'est pas dotée de ce mécanisme, et aussi on n'a pas le réflexe de faire dénoncer de façon à ce que les cas soient recensés, soit aussi un problème à prouver cette islamophobie?
Ça c'est vrai, mais en fait c'est pas le seul système. J'ai parlé tout au début de cet observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. Le Québec ou le Canada pourrait aussi se doter d'un mécanisme comme ça, c'est-à-dire d'avoir un organisme étatique qui recense, pas nécessairement que la communauté elle-même recense, mais la communauté pourrait être un facteur, un élément dans ce recensement, mais qui soit chapeauté par une structure gouvernementale, par exemple. Un observatoire des phénomènes racistes, que ce soit des phénomènes racistes antisémites ou des phénomènes racistes homophobes, etc. Donc on pourrait penser à ce genre de structure. Et c'est vrai que si on le problème quand on commence à regarder le phénomène d'islamophobie au Québec, c'est que on n'a pas de chiffres, on n'a pas de d'éléments tangibles, et on a que des suppositions, et on a aussi nos sentiments. Par exemple, moi ça fait 20 ans que je suis au Québec, et j'ai senti je suis passé d'un musulman extrêmement respecté dans ma communauté à un niveau actuellement où je dois cacher quasiment le fait que je suis musulman. C'est-à-dire, si on me demande, je vais le dire, mais je ne le proclame pas. Alors que il y a 20 ans, je le proclamais, puis j'étais respecté en tant que tel.
Et là, on parle d'une personne qui a quand même assuré une intégration très très intéressante, qui a prouvé qu'il y a eu beaucoup de prix, et malgré ça, on a de la difficulté à s'afficher comme on est. Donc imagine une personne qui vient d'arriver.
Moi, je vous dis, au début, quand on faisait des fêtes au niveau du travail, les gens savaient que j'étais musulman, donc je prenais pas d'alcool, puis je mangeais pas de porc, donc ils s'arrangeaient pour avoir des boissons. Et je me rappelle, il y a pas très longtemps, il y a quelques années, une directrice a ramené du champagne uniquement. Puis quand je l'ai regardée, elle m'a dit, ben si t'as besoin de boire, ben il y a la machine à coca. Va t'en payer. Exactement comme ça, là. C'est une de en fait, c'est ma supérieure. C'est assez étrange. On est vraiment passé d'un sentiment. Et c'est vrai que moi, je parle à titre personnel, mais chacun de nous dans la communauté a vécu des anecdotes comme ça. Mais ce qui serait intéressant, en fait, c'est de recenser ces actes, de recenser ces façons de faire, pour pouvoir les quantifier, voir s'ils augmentent, s'ils diminuent, etc.
Moi, une question à vous poser, Monsieur Ben Saada, c'est que pour recenser, essayer de quantifier toutes ces anecdotes ou ces états de fait qu'on ne peut pas renier, est-ce qu'il n'y serait pas beaucoup plus judicieux de créer justement, pas pour le créer seulement, un conseil représentatif des musulmans, qui ne soit pas une vue d'esprit, mais qui soit un interlocuteur valable et tangible vis-à-vis des autorités ou vis-à-vis des personnes ici au Québec, comme cela se fait
c'est une option. En France, c'est ce qu'ils ont opté justement pour éviter ce qu'on appelle les mosquées dans les garages, dans les sous-sols. On a justement créé une structure comme ça qui pouvait dialoguer avec les l'exécutif et avec les hommes politiques.
Comme ça, s'il y aura un journaliste ou j'en sais pas, une personne qui va s'essayer d'être plus ou moins islamophobe d'une manière directe ou insidieuse ou sournoise, eh ben, elle va réfléchir à 10 fois.
Exactement.
Faire.
Et aussi, ce qu'on a vu aussi au Québec ici, c'est que certaines personnes s'invitent et se proclament toutes seules représentatives de la communauté. On en a vu plusieurs, je ne citerai pas de nom, mais il y a plusieurs personnes qui, tout d'un coup, par enchantement comme ça ou par décision médiatique ou politique, se retrouve représentative, alors qu'elle n'a aucune crédibilité, elle n'a pas de soutien.
C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire, il y a le problème de la représentativité, c'est une chose, mais de la pertinence d'avoir cette représentativité est de mise.
Exactement. Mais l'exemple que vous avez cité tout à l'heure qui concerne la France, les gens du conseil consultatif sont élus. Ils sont élus par la communauté. Donc ils sont plus ou moins représentatifs d'une communauté.
Je vous trouve optimiste. J'espère que les années à venir
nous vivons dans ce pays ou dans cette province. Il faut trouver le moyen de vivre en harmonie. En fait, les problèmes ne sont bons. Quand tu as des problèmes dans une société, c'est pas bon pour personne.
Je pense qu'on va prendre un appel. Il y a un appel en attente. Et bien sûr, après l'appel, je pense que Wahid, on a notre revue de presse qu'on va présenter chaque 2 semaines. Une nouvelle rubrique à Taxi Maghreb présentée par Wahid, où il va nous permettre d'avoir une revue de presse de ce qui se passe au Maghreb et bien sûr au sein de la communauté ici et au Canada aux 2 semaines sur les ondes de Radio Centre-Ville durant l'émission Taxi Maghreb. Je vais prendre l'appel pour qu'il il raccroche pas. Allô, oui, bonsoir.
Allô.
Allô, oui, bonsoir.
Oui, oui, bonsoir.
Vous êtes sur les ondes de Shkoun Maïa Khouya?
À qui je parle?
Vous êtes sur les ondes, hein?
Ok, oui, bonsoir. J'aimerais juste dire, je ne vous entends pas très bien, mais j'aimerais donner une petite opinion concernant, quand vous parlez de l'intégration, l'islamophobie, que dans un sens, l'islam comme tel n'a pas besoin d'un conseil ou de quelqu'un qui va le représenter, parce que on n'aura pas un meilleur représentant que soi-même quand on a une belle approche, une bonne éducation, une belle intégration, au fond, on finira même contaminer les autres, et donc, comme on dit, force de côtoyer quelqu'un, on finit par lui ressembler. Donc,
bonsoir,
moi,
Kéline.
Mon expérience depuis des années, dans mon milieu où je travaille, je pense que Wahid me connaît, Lamine aussi, je pense qu'il me connaît. Je n'ai jamais éprouvé un problème de rejet ou un problème d'intégration, étant donné que l'éducation de base, à mon avis, c'est le seul outil qui me semble important à mes yeux. Et pour le reste, ce sont que des pacotilles. Pour le reste, un jour ou l'autre, il va y avoir un décompte. Et à force d'être assidu, sérieux, on fait nos affaires et on laisse pour le reste ce qu'on appelle les combérants, et on finit toujours par triompher. C'est ma démarche, ça m'a toujours réussi, et je n'ai jamais éprouvé personnellement de l'animosité envers moi, et malgré que autour de moi des gens me soulignaient des affaires de cette nature, je ne comprenais pas. Alors je ne suis pas un cas seul ou un cas unique, mais il me semble que de par l'éducation que nous avons reçue, c'est celle-là qu'il fallait propager, et en espérant d'aller rayonner autour de nous de la bonne façon, et et je pense de cette manière-là, on va ramener les gens vers nous. Et peu importe la personne qu'on côtoie au fond.
Merci beaucoup, Karim. Je pense que le message est passé.
Comment ?
Le message est passé. Merci beaucoup pour votre intervention.
Il n'y a pas de quoi.
Il y a avec ça.
Ce que j'aimerais dire à monsieur, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être modèle dans notre façon d'agir tous les jours, de travailler, etc. Mais les 30% de chômage ne sont pas une fiction. C'est de ça qu'on débat. C'est-à-dire qu'on peut être modèle nous-mêmes, mais aussi se doter de mécanismes pour justement régler le problème de la majorité qui trouve pas d'emploi et qui s'intègre très mal à la société.
En plus, je pense qu'il y a un autre élément qui est aussi fondamental que ça. Au-delà de la question du chômage, je peux dire que des personnes peuvent se retrouver dans un processus d'intégration très très positif, mais il y a des éléments qui sont très importants. À titre d'exemple, la question de l'éducation, il y a une étude qui a été faite par un Tunisien, j'ai oublié son nom, qui a quitté le Québec en fond parce que les pays du Golfe ont appelé à son expertise pour évaluer leur manuel scolaire dans l'autre sens, parce qu'il y a de l'anti-occidentalisme là-bas, et il a fait une étude au Québec qui démontre clairement que les manuels scolaires comportaient des choses islamophobes très graves, et que durant le processus d'éducation des enfants, on leur donnait des images fausses du musulman, et que même si individuellement on pourra se débrouiller, c'est très grave qu'on arrive à la situation que les gens vont dire « Oui, mais toi, tu es différent. » Moi, ça me dérange qu'on me dise que toi, tu es différent, parce que je ne suis pas différent des autres, et que s'il y a un problème d'image et d'amalgame entre une minorité et une majorité qui veut vivre en paix au Québec, c'est important qu'on ait une démarche citoyenne pour dénoncer ça.
Moi, Lamine, je voudrais parler d'une chose très, 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 très précise. En parlant d'intégration, moi, l'intégration, c'est très simple. Je vais à Place des Arts, moi, je l'ai dit la fois passée, l'intégration, c'est aller voir un film, aller voir, je sais pas, une pièce de théâtre, ou être invité à Tout le monde en parle. Moi, si je prends les 1000 invités ou les 500 invités ou les 400 invités de Tout le monde en parle, je fais un pourcentage, je me pose la question, il y a combien d'invités québécois, canadiens, d'origine maghrébine musulmane qui ont été invités? Moi, si demain Lamine Foura ou M. Ben Saada, une tierce personne qui savait Mohamed Omar, qui soit invité, j'en ai pas vu des tonnes. Et pour moi, ça, c'est une intégration aussi. Dans le champ médiatique canadien et québécois, on est presque quasiment absent.
On peut être des idoles, on peut être des exemples comme le sont une très grande majorité de la communauté maghrébine musulmane ici, mais on aurait bien voulu qu'on nous envoie des cartons d'invitation. Vous en pensez quoi, M. Bensa?
C'est vrai. En fait, quand on regarde la télévision au Québec, on regarde en fait une télévision qui ne ressemble pas, qui n'est pas représentative de ce mélange culturel
qui existe dans le métro
et qui existe dans les rues et qui existe partout
dans la
vraie vie. En fait, on a une société qui est épurée de tout autre, à part quelques exceptions.
On voit ce blocage, monsieur Ben Saadas, il se trouve où? Il faut aller le trouver, là, c'est où?
En fait, la situation des immigrants dans des pays d'accueil, c'est toujours le même problème, c'est de trouver leur. En fait, il y a une phrase que j'aime bien dans le rapport de l'Union européenne, c'est de dire que en fait l'intégration c'est un processus qui est dynamique, qui a deux sens, qui a double sens. Quand je regardais toutes les tergiversations des accommodements raisonnables, etc. On ne parlait que de l'émigré qui veut s'intégrer. Il doit s'intégrer. Il est invité. Puis là, il est invité. Il doit faire ci, il doit faire ça. L'intégration est un processus dynamique. Il y a dans les deux côtés. Ok. C'est on ne peut pas s'intégrer tant que on ne voit pas l'intégration dans l'œil de l'autre. Si l'autre te regarde d'un autre œil, même si toi tu te sens le plus intégré du monde, mais si tu le vois pas dans l'œil de l'autre, tu ne seras pas intégré.
Il faut que vous parlez, c'est une intégration osmotique.
Exactement.
Et dans les deux sens.
Il faut une acceptation. Moi, j'essaie de faire un effort, mais aussi la société d'accueil aussi doit faire un petit effort de nous accepter tel que nous sommes et qu'on peut faire une société ensemble, une société dynamique, une société intéressante, tournée vers l'avenir.
Je pense qu'il y a un appel. C'est Mouloud qui revient, donc on va prendre rapidement. Bonsoir Mouloud.
Oui, bonsoir.
Je pense que ça s'est coupé tout à l'heure.
Merci. Dites-moi, regardez, l'intégration, c'est à nous de s'intégrer, ça c'est sûr. Et n'importe où au monde, même s'il y a quelqu'un qui va venir chez nous, dans le pays où on vient, donc on aimerait bien qu'il s'intègre. Et puis, parfois... C'est chacun de nous qui devrait donner sa part partout où on va, puis de laisser le monde nous respecter, puis c'est tout. C'est ça mon opinion, mon point de vue. Quoi. Et puis jusqu'à présent, donc...
Mais est-ce que vous pensez pas, si on pose la question, est-ce que vous pensez pas qu'il y a une islamophobie au Québec ou en Occident en général aujourd'hui?
Non, pas juste au Québec, mais c'est partout dans le monde, quoi. On est mal aimé, quoi. Musulmans est égal terroriste, quoi. Vous connaissez la blague, quoi. Et puis, ça va rester tout le temps comme ça. Puis, c'est à nous, les musulmans, de montrer nos bonnes valeurs. Et puis, vous ne voulez pas, on n'est pas chez nous. Hein.
Merci beaucoup, Atek Sahamoud, pour la
question.
Moi, j'aimerais qu'on se pense un petit peu chez nous ici, parce que c'est important de, si on veut, comme, si on veut s'intégrer, je répète un peu, j'ai trouvé la phrase de l'Observatoire du racisme et l'Observatoire contre les phénomènes de racisme et de xénophobie. Et ça dit, l'intégration est un processus dynamique à double sens de compromis réciproque entre tous les immigrants et résidents des États membres. Donc, je trouve que cette définition est très intéressante. Quand on met tout le fardeau du poids de l'intégration sur les migrants tout seuls, c'est comme si on le laissait un petit peu orphelin.
Mais on le voit très clair parce que quand on a commandé le rapport des deux commissaires de la commission Bouchard-Taylor, au fond, même le gouvernement Charest est tombé dans le piège parce qu'il demandait en fin de compte à ce que des spécialistes lui donnent la recette pour imposer une façon de s'intégrer aux immigrants. Quand le rapport est sorti en mettant l'accent sur la responsabilité mutuelle de la société d'accueil des immigrants, il a parlé d'islamophobie, mais aussi il a parlé du besoin d'ouverture de la société vers les migrants pour que cet immigrant, on a vu que le rapport a été mis dans les tiroirs.
Exactement.
Il est presque inexistant parce qu'il n'a pas donné au fond la vision ou la direction que les gens qui l'ont commandé voulaient l'avoir.
Exactement.
Il nous reste à peu près 8 minutes. Wahid, on va faire rapidement une petite revue de presse rapide maghrébine. Alors, et après, on va revenir avec notre invité, donc Dr Hamdou Moussaada, pour clore le débat sur la question de l'islamophobie.
Moi, la semaine qui vient de s'écouler, j'ai retenu surtout, bien sûr, la révision constitutionnelle. Et j'ai retenu la phrase qui est parue dans le journal El Watan, où il est dit, c'est tout simplement une présidence à vie pour Bouteflika, qu'ont voté les membres des deux chambres du Parlement. Pour El Khabar, le journal de langue arabe algérien, il est dit qu'il s'agit d'un retour en arrière d'une dizaine d'années. Donc le 12 novembre 2008, 389 députés de l'Assemblée nationale et 144 sénateurs ont voté pour la révision constitutionnelle et 21 ont voté contre et 8 abstentions. Selon l'agence Presse Algérie, le président de la République, le lendemain, a nommé M. Ahmed Ouhia Premier ministre, le poste qu'il occupait, donc il occupait le poste de chef de gouvernement. Pour ce qui concerne du pays voisin, le Maroc, le 18 novembre, c'était la fête de l'indépendance du Maroc, qui a obtenu son indépendance le 18 novembre 1956, donc nous présentons nos voeux aux citoyens marocains résidant ici au Canada, au Québec et partout dans le monde. Et bien vu, il y a eu une histoire insolite le 29 octobre passé, un accouchement à bord d'un vol de la Royal Air Maroc, donc un vol qui a décollé de Casablanca vers New York, une passagère en provenance de Kinshasa, donc du Congo démocratique, a donné naissance à une petite fille au-dessus du Portugal à 50 minutes, donc après avoir décollé de l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Et bien sûr, l'événement québécois, c'est les élections provinciales, et l'événement canadien, ça a été le discours du trône du Premier ministre Stephen Harper.
Voilà. Bien sûr, concernant les élections, on va les aborder durant la prochaine émission d'Axi Maghreb, parce que ça va être la veille des élections dans deux semaines. Monsieur Charest nous a imposé des élections dans un temps très froid. On a eu plusieurs élections, les élections canadiennes, les élections américaines, et Monsieur Charest veut avoir au fond la majorité. On va voir ce que les Québécois vont lui dire le 8 décembre prochain. À la fin de notre émission, donc, nous allons essayer de faire une synthèse avec notre invité, Dr Hamdou Moussaada.
Alors, à mon avis, le phénomène de l'islamophobie n'est pas un phénomène fictif ou imaginaire, comme le prétendait notre auteur du début, qu'on avait, M. Jmali. C'est vraiment un problème concret, réel, qui a été quantifié dans plusieurs pays et qui, en fait, dénote d'une mauvaise connaissance de l'islam et dénote aussi d'une aversion vers une communauté qui pratique la religion musulmane. Et ce problème, est, d'après les statistiques récentes, est un phénomène qui diminue pas, qui grandit au contraire, et c'est un phénomène qui mine les relations interethniques dans la plupart des pays occidentaux.
Monsieur Ben Saada, c'est très simple. Dans la semaine prochaine, début de semaine, le téléphone sonne chez vous, on vous appelle du bureau du Premier ministre justement canadien, on demande votre conseil. Que préconisez-vous comme première initiative pour essayer de contrer ce phénomène? Ça serait quoi? Première chose.
La première chose, oui. À mon avis, ce serait de mettre en place des mesures concrètes pour diminuer le chômage, c'est-à-dire faire imposer des CV qui sont anonymes, par exemple, ou faire voter des lois de discrimination positive, surtout dans les organismes étatifs, c'est-à-dire avoir un certain pourcentage de minorités ethniques.
Qui fera ça?
C'est au niveau du gouvernement. De toute façon, il y a dans l'article que j'avais cité tout à l'heure au sujet de le chômage des Maghrébins, une honte pour le Québec, on dit en 1981 le ministre Gaudin voulait avoir au-delà de 9%
Jean-Claude Gaudin qui était le maire de Marseille.
Exactement. Non, Gérald Gaudin voulait faire passer la représentation des minorités dans l'appareil public de 1,9 à 9% pour l'année 1986. Et actuellement, il n'est que de 3%.
Vous préconisez un organisme, une institution, des mesures, quoi? En un mot.
en un mot, un organisme exactement qui puisse prendre en charge ces problèmes-là. Merci.
Merci beaucoup, Dr. Hindoum Saada. Merci beaucoup, Wahid. On arrive à la fin de notre émission. Je vous rappelle que vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Tambour battant, l'émission haïtienne va arriver dans quelques instants. On a parlé aujourd'hui d'islamophobie. On a essayé de démystifier le terme, de voir sa présence réelle ou imaginaire en Occident, au Québec en particulier. Et tout cela a été fait en présence du docteur Ahmed Ben Saada, qui est professeur et penseur libre, puisque, comme je l'ai mentionné, ça lui arrive donc de faire des études sur des sujets particuliers comme la question de l'islamophobie. Donc restez à l'écoute de Radio Centre-Ville, qui sera avec vous jusqu'à matin, 24 sur 24, avec l'émission donc Tambour Battant. Et pour notre cas, on va leur donner rendez-vous, Wahid, le samedi dans 2 semaines, et on va parler d'élections.
Inch'Allah.
Et on vous laisse avec une belle chanson d'un album qui a été fait avec Idir et un ensemble de jeunes artistes de couleur en France, la France des couleurs.
Yeah, yeah. What up is going down? Triple A champion, Big Ali, New York City in the building. We spread love. All the colors of France. We need you to unite. Stop the fight. Let's go.
On veut notre identité, on a